Chapitre 3. Les Dourzennes, depuis 2 mois que Gwen avait disparu, ne comptaient plus guère qu'on la retrouvât. M. Dourzennes en prenait aisément son parti, avec l'insouciante égoïste qui lui était habituelle. Mais Blanche et ses filles regrettaient leur habile femme de chambre. Aussi ne se privaient-elles pas d'accabler l'absente d'accusations vengeresses. « Telle mère, telle fille, je l'avais bien dit !» déclarait Mme Dourzennes. Cette créature sournoise m'avait toujours inspiré de la défiance, et voilà comment nous sommes récompensés de tout ce que nous avons fait pour elle. Quant à la vérité sur cette disparition, personne ne la soupçonnait, sauf Mademoiselle Herminie et Macha. Elles en parlaient toutefois rarement. La vieille demoiselle, en dépit de sa légèreté d'esprit, n'était pas sans éprouver quelques remords à ce sujet. Quant à Macha, elle en voulait secrètement à sa maîtresse d'avoir poussé cette jeune fille sans expérience vers une telle aventure. L'arrivée de Dougal de Penansquet, accompagnée d'une hindoue, était passée inaperçue, l'atterrissage s'étant effectué au crépuscule. La présence de cet hindoue à Kermazinck n'avait été connue que quelques jours plus tard et suscitait même bavardages et hypothèses. Mademoiselle Herminie l'apprit le lendemain du jour où Gwen s'était rendue à Tikarek et, au retour de Lesmélinck, en fit part à sa femme de chambre. « Oh, mademoiselle, si c'était elle !» s'écria la femme de chambre. Mademoiselle Herminie eut un léger sursaut. « Qui, elle ? Gwen ? Je n'y avais pas pensé. Pourquoi, cependant, la ramener ici, tout près de Coatbé ? J'ai idée que c'est elle, mademoiselle !» Elles revinrent plusieurs fois sur ce sujet au cours de la journée. Le soir, tout en cousant, Macha en parla encore, disant qu'elle tâcherait d'apercevoir cet hindou qui, disaient les domestiques bretons de Kermazinck, était toujours voilé et ne sortait que dans le parc. « Si elle est voilée, vous ne la reconnaîtrez pas, » dit mademoiselle Herminie. « Que si, mademoiselle, rien qu'à son allure, il n'y en a pas deux comme elle. Mais si elle ne sort pas de Kermazinck ?» « Eh bien, j'irai par le parc et je la guetterai. »« Je ne dis pas non. J'aimerais savoir ce qui lui est advenu. »« Rien de bon, hélas !» dit Macha avec un soupir. Quand 10 heures sonnèrent, la femme de chambre rangea son ouvrage, mademoiselle Herminie ferma son livre et toutes deux se préparaient à quitter la pièce lorsqu'un coup léger fut frappé au volet du salon. « Qu'est-ce que cela ?» dit la vieille demoiselle. « Vient-on de chez Hervé ?» Peut-être ont-ils quelqu'un de malade ? Macha alla entr'ouvrir la porte-fenêtre et demanda « Qui est là ? Ouvrez, Macha !» dit une voix féminine un peu tremblante. « Seigneur, c'est Mademoiselle Gwen !» s'exclama la femme de chambre. Les volets ouverts, ce fut en effet Gwen qui apparut, enveloppée dans une grande cape, la tête entourée d'une écharpe de gaze blanche. « Est-ce possible ? Toi ? « Toi, mon enfant ?» Mademoiselle Herminie s'avançait les mains tendues. « Macha avait donc bien deviné, c'est toi, la mystérieuse hindoue de Kermazinck ?»« C'est moi, » dit sourdement Gwen. Alors la vieille demoiselle et Macha remarquèrent l'altération de ce visage, le cerne profond sous les yeux fiévreux. « Tu t'es sauvée, ma pauvre enfant, tu étais prisonnière ?» « Non, il faut que je vous raconte tout. Après, vous me conseillerez. »« Assieds-toi. Veux-tu du thé ou autre chose ?»« Rien. Je n'ai besoin de rien. » Macha discrètement sortit du salon. Mademoiselle Herminie s'assit près de la jeune femme et lui prit la main. « Parle, Gwen. Qu'y a-t-il ? » ?»« Mademoiselle, je vais vous confier un secret très grave pour lequel je vous demande le silence. » Je suis venue à vous parce que vous m'avez dit autrefois qu'une promesse de discrétion engageait à vos yeux l'honneur. Tu as eu raison, cette promesse, je te la fais, Gwen. Alors Gwen lui raconta tout, son enlèvement, son mariage, la menace mortelle qui avait déterminé Dougal à la faire quitter Pavala, puis cette atroce découverte que le meurtrier de sa mère était Ivor de Penansquet. Mademoiselle Herminie l'écoutait avec la plus vive attention, en laissant échapper de temps à autre une exclamation sourde. Gwen parlait d'une voix un peu haletante. Les joues, pâles à son arrivée, se coloraient maintenant d'une rougeur de fièvre. « Je ne peux plus revoir Dougal, » conclut-elle d'un accent devenu rauque. « Je ne peux plus vivre avec lui. Et je viens vous demander, si vous voulez me recevoir, me cacher pendant quelques jours, puis me recommander à Paris aux relations que vous avez là, afin que je trouve un moyen de gagner ma vie. Tu es ici chez toi, mon enfant, et tu y resteras tant que tu voudras. Retournes-tu ce soir à Karmazinc ? Gwen secoua négativement la tête. Ses traits se crispaient, et pendant un moment, la souffrance lui coupa la parole. « Je l'ai quitté définitivement, » dit-elle enfin. « J'ai laissé un mot pour Dougal qu'on lui fera parvenir par la voie qu'il m'a indiquée. Ne pouvant lui donner le véritable motif de ma décision, je lui dis qu'un fait très grave s'est produit qui m'oblige à me séparer de lui pour toujours. S'il t'aime comme tu le dis, il n'acceptera pas cela et te fera rechercher. Je resterai caché ici sans sortir. Il le faut d'ailleurs de toute façon à cause des Dourzennes. C'est un des premiers endroits où il aura l'idée de te chercher, sachant que tu as toujours été bien accueilli chez moi et que je suis, après tout, ta seule protection. Oui, vous avez raison. Mais alors, que faire? Nous y réfléchirons d'ici à demain. Tu me parlais de Paris. Ce serait là que tu pourrais te mieux cacher. Je connais la gérante d'une bonne pension de famille, femme très sérieuse et discrète. Tu serais bien là, recommandée par moi. Oui, mais il me faudrait d'autres vêtements. La jeune femme montrait son costume hindou. Macha ira demain à Quimper t'acheter ce qu'il faut. Merci, mademoiselle, mais je n'ai pour le moment rien à moi. J'ai laissé tous les joyaux qu'il m'avait donnés. La voix s'étrangla un peu. Je ne voulais rien emporter de ce qui est au fils de cet homme, mais dès que je gagnerai quelque chose, je vous rembourserai. Veux-tu bien te taire? Tu es ma parente et c'est en ta faveur que j'ai fait mon testament, car je ne veux pas que rien de chez moi aille à Rose et à Laurette Dourzennes. Et puis, enfin, dans ce qui arrive, j'ai ma part de responsabilité. Donc, ne parlons plus de cette affaire-là. Tu vas aller te coucher, car tu n'en peux plus, ma pauvre. Tu dois avoir la fièvre. Oui, je le pense. Mais qu'importe? Ah, si je pouvais mourir! C'est tellement affreux ce que j'éprouve depuis hier soir. Mon Dieu, ne plus le revoir! Et ma pauvre maman, qui a tant souffert par ce monstre! Le visage entre ses mains, Gwen sanglotait. Mademoiselle Herminie pensa « Il vaut mieux qu'elle pleure, ses nerfs vont se détendre un peu. Mais voilà une Dourzenne qui ne dément pas la tradition. Pour une aventure, je pense qu'en voilà une, par exemple. » Les projets de départ ne devaient pas se réaliser pour Gwen. Pendant 8 jours, elle demeura couchée, anéantie par la fièvre. Quand elle put se lever, elle se sentit d'une grande faiblesse. Mademoiselle Herminie lui déclara « Ma petite, je ne te laisserai pas partir de si tôt. Après tout, tu n'as rien à craindre ici. Dougal ne viendra pas perquisitionner chez moi pour te découvrir. Donc tu vas rester bien tranquillement dans cette chambre jusqu'à ce que tu aies repris complètement tes forces. » Gwen ne protesta pas. Sa faiblesse physique lui enlevait une partie de son énergie habituelle. Puis elle pensait qu'après tout, Dougal, avec les moyens d'investigation dont il disposait, pouvait aussi bien la découvrir à Paris et que là, elle n'aurait pas la protection de Mademoiselle Herminie contre lui, contre son amour. Oui, c'était cette chose redoutable qu'elle fuyait, la lutte contre l'amour de Dougal et contre son propre cœur, déchiré par le désespoir de cette séparation. Elle ne disait mot de son tourment à Mademoiselle Herminie. Pas davantage, elle ne lui parlait de sa mère. D'ailleurs, elle restait longuement silencieuse, absorbée dans ses pensées, frissonnant près du feu de bois que Macha entretenait dans sa chambre. Plus d'une fois, elle se prenait à songer. « C'est un mauvais rêve que je fais là, un rêve terrible. Tout cela n'est pas vrai. Le comte de Penansquet n'a pas tué ma mère. Je retournerai près de Dougal et nous continuerons d'être heureux comme auparavant. » Hélas, il y avait dans l'armoire ce petit coffret d'ivoire où se trouvaient les preuves irréfutables. Rien ne pouvait prévaloir contre cette certitude. Le père de Dougal avait empoisonné la mère de Gwen après l'avoir, pendant plusieurs années, à la suite d'une odieuse tromperie, tenue dans un dégravant esclavage moral. Et le premier crime était pire encore que l'autre, qui ne visait qu'à faire périr le corps. 15 jours avaient passé maintenant. Gwen pensait « Dougal a dû recevoir ma lettre pour qu'on lui expédie son courrier d'Europe par avion. Que va-t-il faire? Viendra-t-il tout de suite à Kermazinck pour tâcher de retrouver ma trace? Aura-t-il aussitôt l'idée que je me suis réfugié ici? Oh, quand je pense qu'il viendra peut-être dans cette maison, que je serai là, tout près de lui, et qu'il faudra me cacher, c'est trop affreux !» Un soir, comme Mademoiselle Herminie et Gwen lisaient dans le salon, deux coups furent frappés au volet. Gwen sursauta, devint très pâle et dit tout bas « C'est lui !»« Monte dans ta chambre, » répliqua Mademoiselle Herminie. « Je n'irai imperturbablement, puisqu'il ne peut avoir aucune certitude. » Quand Gwen eut disparu, la vieille demoiselle alla à la porte et demanda « Qui est là ?» Une voix mâle répondit « Le vicomte de Penansquet qui désire avoir un renseignement de Mademoiselle d'Ourzen. » Mademoiselle Herminie ouvrit tout à fait le volet. À la lueur de la grosse lampe qui éclairait le salon, elle vit Dougal qui se découvrait pour la saluer. « Vous êtes Mademoiselle Herminie d'Ourzen ?»« Oui, monsieur. » Elle s'écartait en même temps et l'invitait du geste à entrer. Quand il fut dans le salon, il demanda sans préambule « Gwen est chez vous, mademoiselle ?»« Gwen, je ne l'ai point vue depuis longtemps, depuis plus de 2 mois qu'elle a disparu. À quel propos ?» Mais Dougal l'interrompit d'un ton bref et impatient. « Il est inutile de nier, mademoiselle, Li Hang, le Chinois que j'avais mis au service de ma femme, car elle a dû vous dire qu'elle était ma femme, a relevé les traces de son passage dans le parc et à travers la clôture. Or, ce n'est pas chez les Hervé d'Ourzen qu'elle a cherché asile. Peut-être n'est-elle plus ici maintenant, mais vous allez me dire où elle se trouve. Cela, jamais. Quand je devrais vous y forcer. » Mademoiselle Herminie ne put se tenir de frissonner devant ce visage durci et cette lueur menaçante dans les yeux sombres. Toutefois, elle répliqua bravement « Je ne trahirai pas la confiance que Gwen a mise en moi. D'ailleurs, un obstacle insurmontable se dresse entre vous. C'est ce qu'elle m'a écrit, mais cet obstacle, je veux le connaître. Elle ne peut pas vous le dire. C'est ce que nous verrons. » Tout en parlant, Dougal jetait autour de lui un regard investigateur. Il vit sur une table le livre abandonné par Gwen et, se baissant, il ramassa un petit mouchoir garni de précieuses dentelles qui exhalait un délicat parfum d'Orient. « Gwen est encore ici, » dit-il en se tournant à nouveau vers la vieille demoiselle. « Il faut que je la voie. Je ne m'en irai pas d'ici avant cela. »« Mais, monsieur, en vérité, vous êtes chez moi et je... » Sans l'écouter, Dougal se dirigeait vers une porte. Celle-ci s'ouvrit tout à coup et Gwen parut sur le seuil, pâle et chancelante. « Gwen, enfin !» Dougal s'est lancé vers elle, mais les mains de la jeune femme s'étendaient pour le repousser. « Non, non, il valait mieux ne plus nous revoir. Je ne puis te dire autre chose que ce que je t'ai écrit. Et moi, j'ai le droit d'en savoir davantage. » Quel est cet obstacle qui, selon toi, nous désunit pour la vie? Se trouve-t-il de ton côté, du mien? Réponds, Gwen. » Elle balbutia avec un regard suppliant. « Je t'en prie, n'exige pas. Mieux vaut que tu ignores. » Crois-tu donc que, t'aimant comme je t'aime, je vais accepter cette séparation, alors qu'il s'agit peut-être de quelle folle imagination de ta jeune tête? Plût au ciel! « Oh, Dougal, ne comprends-tu pas quelle torture je subis et qu'il faut un motif grave, terrible, pour que je brise ainsi notre amour ?» La voix de la jeune femme s'étouffa dans un sanglot. Dougal fit les quelques pas qui le séparaient d'elle et la prit dans ses bras. « Un motif terrible? Il faut me le dire, Gwen. Je ne partirai pas d'ici avant de le savoir. » Un regard passionné enveloppait Gwen. Mais elle comprit, à l'accent décidé, impérieux, que la volonté de Dougal ne céderait pas. « je t'en prie, n'exige pas cela !»« Je l'exige !»« En ce cas, tu sauras tout, mais tu l'auras voulu. » Elle se dégagea, quitta la pièce. On l'entendit monter l'escalier. Un instant après, elle reparaissait, tenant à la main le coffret d'ivoire. « Tiens, tu verras !» Tu liras, dit sa voix haletante. « Et demain, tu m'écriras pour me dire adieu !» Puis elle sortit de nouveau en refermant la porte sur elle. Quand Mademoiselle Herminie, après que Dougois l'eût pris congé avec quelques excuses polies, entra dans la chambre de sa jeune parente, elle la trouva presque sans connaissance. Eh, il ne lui faudrait pas trop de secousses comme cela à cette petite, marmotta la vieille demoiselle. Espérons que son beau Dougois la laissera tranquille maintenant. Mais elle ne l'oubliera pas de sitôt, ce prince charmant. Dans la journée du lendemain, au crépuscule, le chinois Liang vint apporter un paquet et une lettre à l'adresse de Gwen. Dans le paquet se trouvait le coffret d'ivoire. La lettre contenait ceci. J'ai lu et je comprends, ma bien-aimée. Nous ne nous reverrons plus, mais ton souvenir ne cessera d'habiter en moi, ton souvenir est celui de notre court bonheur. Je ne puis, hélas, t'offrir que de trop faibles réparations, puisque la punition du coupable m'est interdite. Toutefois, je veux que notre existence pécuniaire soit largement assurée. Je t'ouvre chez Brooke et Lawson, banquiers à Paris, un compte annuel d'1 million de francs, dont le capital te sera assuré par mon testament au cas où je mourrais avant toi. Voilà tout ce qu'il m'est permis de faire pour toi, mon unique amour. Si je puis aussi veiller à ce que nul ne te nuise. Et je te dis adieu, Dougual.